Stadium Ligue 1, le podcast sur l'actualité du championnat de France de football.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Stadium Ligue 1, le podcast qui parle du meilleur championnat d'Europe, du monde et bien sûr de la galaxie. Alors aujourd'hui, comme vous le savez, on est en trêve internationale, donc vous commencez à avoir l'habitude, pendant les trêves internationales, on parle de sujets différents et on laisse place au chant des supporters. Le chant des supporters, c'est un moment que je passe avec le supporter d'un club de Ligue 1. On va retracer un peu son histoire à partir des années 2000 et avoir ce sentiment que les supporters ont pu avoir pendant tous leurs événements. Ce troisième épisode, il va se concentrer autour du FC Nantes. Alors juste pour vous donner un peu une petite introduction, le FC Nantes c'est un club qui a été créé en 1943 après la réunion de plusieurs clubs amateurs de la région. Le FC Nantes il a gravi les échelons du football français pour se hisser jusqu'en première division à partir de 1963 sous la coupe de José Arribas. Les jaunes et verts ont su marquer l'histoire du football français de manière différente, notamment par ses nombreux titres de champion de France, sa longévité en première division, mais il a aussi marqué le football européen et mondial par un jeu caractéristique. Et oui, bien avant le tiki-taka, ou le gegenpressing, ou encore le catenaccio, les cadenas ont inventé le jeu à la nantaise, un style de jeu fluide, léché, qui a évolué à travers le temps et à travers les coachs. Les Canaries, club sulfureux de l'Hexagone, nous offrent depuis le début des années 2000 des scénarios aussi passionnants que la feu trilogie du samedi soir. Et aujourd'hui avec moi pour parler du FC Nantes, j'ai Lucas. Lucas, comment tu vas ?
Salut Dessy, ça va super, merci pour l'invitation.
Bah merci à toi d'avoir répondu de manière positive à cette invitation. On va commencer tout de suite. Déjà, voilà, la première question que je pose à tous mes invités. Comment a commencé cette histoire de supporter avec le FC Nantes ?
Alors, c'est assez simple. C'est de génération en génération, de père en fils et de grand-père en petit-fils. En fait, mon grand-père était un grand fan, et toujours d'ailleurs, un grand fan du FC Nantes. Il a transmis sa passion pour le club à mon père. Qui lui-même l'a transmis depuis que je suis tout petit. Et aujourd'hui, on va au stade tous les trois assez régulièrement. Donc, c'est un peu une belle boucle bouclée, quoi.
Nickel, ah ouais. Donc, dès le berceau, ton premier bavoir, c'était un bavoir du FC Nantes, quoi.
Ouais, c'est un peu ça. Les cadeaux étaient assez facilement trouvés. j'ai pas énormément de souvenirs, mais j'ai dû aller au stade de la Beaujoire assez tôt. Ouais, j'ai... À mes 5-6 ans, je pense, mes premiers matchs, et même si ça reste encore très très flou pour moi.
Nickel. Alors toi, tu as une petite particularité, c'est que tu as travaillé pour le FC Nantes en tant que community manager. Alors déjà, juste pour d'autres auditeurs et ceux qui seraient intéressés pour travailler dans des clubs de foot plus tard, j'aimerais savoir comment tu en es arrivé à travailler pour le FC Nantes en tant que community manager.
Alors l'histoire, elle est assez marrante. En gros, je faisais des études de communication, donc entre 2012 et 2015. Et pendant mes études, je ne savais pas encore si je voulais être... Enfin, même après mon lycée, d'ailleurs, je ne savais pas si je voulais être journaliste sportif, bercé par Thierry Gilardi depuis que j'avais 10 ans, ou community manager, parce que j'aimais bien les réseaux sociaux. Mais si j'étais community manager, c'était dans le foot et pas pour une marque lambda. Et du coup, entre 2012 et 2015, je faisais mes études, je faisais des stages en journalisme, mais j'ai aussi lancé, à partir de 2012, il me semble, j'ai lancé un compte Twitter qui s'appelait Team FCN, parce que j'aimais bien les réseaux sociaux, j'étais fan du club, j'aimais bien l'aspect communautaire de Twitter à l'époque. Et du coup, j'animais un compte sur les réseaux sociaux, donc sur Twitter au départ, et le compte a pris un peu plus d'ampleur, donc j'ai créé un compte Instagram. Je me suis aidé d'un autre gars qui s'appelait Guillaume qui a animé le compte avec moi, et du coup je faisais des live tweets, je racontais un peu le quotidien du club par les infos que j'essayais de me procurer, etc. Et en fait, c'était une période où le club n'avait pas de community manager, était très peu présent sur les réseaux sociaux, parce qu'à l'époque c'était pas aussi évident que ça d'avoir un community manager ou d'avoir une grosse présence sur les réseaux sociaux. Donc mon compte a pris de plus en plus d'ampleur petit à petit parce que j'étais limite plus actif que les comptes officiels du club. Donc je tenais ces comptes-là entre 2012 et 2015. Et à côté, du coup, parce que j'avais envie de faire ça non plus à titre bénévole, mais en tant que community manager du club, je postulais au club tous les 3 mois, il me semble, à côté de mes études. Et je me suis pris des refus tous les 3 mois en me disant qu'il n'y avait aucun poste à pourvoir actuellement. Mais j'ai persévéré. Et en fait, en 2016, au moment où je finis mes études de communication, il y a un directeur marketing qui arrive, qui s'appelle Baptiste, que je remercie aujourd'hui d'ailleurs, parce que c'est grâce à lui que j'ai pu vivre ça, qui est arrivé au club et qui a trouvé ça dingue qu'il n'y ait pas de community manager et qui a dit bah, « moi, j'en veux un ». Et du coup, au club, on lui a dit bah, « écoute, il y a un mec qui postule depuis 3 ans, qu'on refuse depuis 3 ans, qui tient un compte Twitter sur l'actualité du club, rencontre-le ». Et du coup, je l'ai rencontré, j'ai signé un CDI dans la foulée à 22 ans. Donc, j'étais le premier community manager du FC Nantes et j'ai vécu 5 ans vraiment, vraiment très sympas et très denses.
Ouais, bah j'imagine, c'est excellent ton histoire, t'as vraiment fait du forcing, quoi. Tu voulais travailler pour le FC Nantes, quoi. J'adore.
Ouais, parce qu'en fait, je me disais, bah déjà, c'était mon rêve, tu vois, de travailler pour le club. Et je sentais qu'il y avait une opportunité sur ce poste-là, parce que le poste de community manager, le métier n'était pas encore hyper développé. Et en fait, je me suis dit, bah, moi, je fais des études de communication, mais je n'ai pas d'expérience dans ce métier-là. Donc, il faut que je joue la carte du mec qui kiffe le club et qui fait des études de communication et qui a un compte Twitter à côté, tu vois. Parce que si j'avais été en concurrence avec d'autres mecs qui avaient une offre ouverte, je ne suis pas sûr que j'aurais été pris parce qu'il y avait des mecs qui avaient plus d'expérience que moi. Donc j'ai joué la carte du mec passionné. C'était le cas. Et ouais, ça a payé. Et l'histoire est assez drôle parce que, bah, à force de persévérance, ça a fini par payer. Il fallait juste que je tombe sur le bon moment et le bon mec à recruter, quoi. Enfin, pour recruter.
Excellent. Bah ouais, c'est parfait. C'est en tout cas belle histoire. Du coup, comment tu as réussi à allier un peu, pour parler de ton expérience, bah, le côté professionnel où tu es quand même là pour communiquer pour le club, ton côté aussi de passionné et de fan du club, tu devais côtoyer les joueurs, ça va, tu arrives à gérer ces deux casquettes?
Ouais, j'ai plutôt bien géré. C'était, en fait, il y avait des bons et des mauvais côtés. Les bons, c'est que bah, en fait, tu vis dans un cadre incroyable, tu suis les joueurs au quotidien, les matchs, tu vas à tous les matchs, à domicile comme à l'extérieur, donc tu es vraiment au cœur du groupe, au cœur du club, donc ça c'est complètement incroyable. Et le fait de donner des informations et de montrer des vidéos, de faire des vidéos, de faire des photos, etc., pour les supporters, alors que j'en suis un, c'était quelque chose que j'adorais parce que je montrais au quotidien en fait toute la vie du club aux supporters qui n'avaient pas accès à tous ces contenus-là ou à toute cette vie-là, à laquelle moi-même j'avais pas accès quelques mois ou quelques années auparavant, tu vois. Donc, sur ce point-là, c'était vraiment top parce que tu vis le truc à 100%, les matchs tu les vis à 100%, même à prendre des vidéos à un entraînement, tu le vis à 100% parce que tu te rends compte de la chance que tu as. Quand tu filmes l'échauffement en bord terrain avant un match et que tu as 30 000 spectateurs autour de toi, tu te rends compte de la chance que tu as parce que tu es en bord pelouse et que tu as des gens qui viennent pour voir ce match-là. Et toi, tu es au cœur de cette expérience-là. Donc, par rapport à ça, c'est génial. Après, le moins bon côté, c'est que, en fait, à force de vivre le truc à 2000%, bah, tu ne penses plus qu'à ça, tu déconnectes très rarement. Et puis tu prends un peu tout à cœur, entre guillemets, c'est-à-dire les critiques sur les réseaux sociaux, quand il y a un mauvais résultat, tu le prends à cœur comme un supporter, etc. Donc ta vie, elle est un peu liée à ça durant cette expérience-là, quoi.
Ok. Et du coup, est-ce que tu as déjà été approché par des gens, style des agents, des choses comme ça, pour avoir des petites infos? Parce que forcément, en tant que community manager, tu avais un peu les infos avant tout le monde. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans la course à l'information, hein, surtout dans la période des transferts. Hein, tout le monde veut savoir qui, quand, va signer où. On a déjà essayé de t'approcher, de te tirer un peu les vers du nez?
Oui, pas forcément des agents, plus des journalistes. Mais ça m'est rarement arrivé quand même. Mais très vite, ils ont compris que j'étais pas forcément le bon interlocuteur pour ça. Et en plus, petit à petit, tu te rends compte qu'en fait, les journalistes, via les agents, via leurs contacts, etc., on limite l'info avant toi d'une arrivée d'un joueur ou d'un transfert ou d'un départ d'un joueur, etc. Donc, ils n'avaient pas forcément besoin de moi pour avoir l'information.
Ok. Bon, bah, nickel. On va passer maintenant un peu au côté supporters. Aujourd'hui, alors dis-moi si je me trompe, c'est vrai qu'il y a trois groupes de supporters principaux. Donc, c'est la Brigade Loire, Allez Nantes Canaries, pardon, et Active Nantes Support. C'est bien ça, je me trompe pas?
Ouais, c'est ça.
Ok. Donc, je voulais savoir un peu quelle est la relation aujourd'hui entre les supporters et les joueurs. On a vu qu'après le Covid, la relation avec les supporters, elle a un peu changé, que c'est pas forcément avec le FC Nantes, mais partout un peu en Europe où les supporters sont de plus en plus présents, communiquent beaucoup plus avec les joueurs, que ce soit à la fin du match quand ça se passe mal ou quand ça se passe bien. On a vu même des choses assez violentes, hein, comme un moment au PSG où les supporters sont allés devant la maison d'un joueur. Toi, en tant que supporter et ancien CM, comment tu la vois cette relation entre les joueurs et les supporters et comment elle est aujourd'hui?
Alors, pour moi, elle est bonne quand les résultats vont bien. Elle est forcément détériorée quand ça va mal. Je pense notamment sur les réseaux sociaux où les supporters sont un peu plus virulents, même vis-à-vis des joueurs, quand les résultats ou la situation, ne va pas forcément bien. Après, plus globalement, effectivement, je suis d'accord avec toi. Je trouve que, y a eu un peu, pas une radicalisation, mais en quelque sorte, dans la relation, comme tu disais, aujourd'hui, c'est devenu limite fréquent que des supporters demandent aux joueurs de venir discuter en bas de tribune après des matchs. C'était pas forcément le cas avant. Et pour parler du FC Nantes, bah en ce moment, c'est un peu compliqué. Mais la relation, elle a souvent été très bonne. Les supporters du club, ils sont à fond derrière les joueurs, notamment quand la situation sportive va bien, quand la situation extra-sportive ou même sportive est un peu plus négative, bah forcément, ça pèse sur la relation qu'ils ont avec les joueurs. Mais globalement, elle est bien. Après, je pense qu'elle était encore mieux avant. Moi, j'ai vécu un peu le changement. En fait, avant, le FC Nantes, c'était un peu la particularité, c'était qu'il y avait énormément d'entraînements ouverts au public. Limite tous les entraînements étaient ouverts au public. Je parle de ça il y a encore une dizaine d'années. Et petit à petit, ça s'est complètement refermé sous l'arrivée de Sergio Conceição, notamment en 2000, fin 2016, début 2017, où il a voulu professionnaliser le club par certaines manières, dont refermer un peu le groupe professionnel sur lui-même. Et du coup, depuis cette période-là, il y a de moins en moins d'entraînements ouverts au public. C'est limite devenu exceptionnel quand il y en a un. Et du coup, bah, la relation, elle, c'est un peu. Enfin, les supporters et les joueurs se sont un peu éloignés du fait des entraînements qui ne sont plus ouverts au public. Donc, ça joue, je pense. Et après, il y a moins de séances de dédicaces, etc. Alors que c'est des moments, quand même, entre les entraînements et les séances de dédicaces qui permettent de créer du lien entre les supporters et les joueurs, quoi.
Ok. On va passer à la rivalité que le FC Nantes a avec les autres clubs, notamment certains en particulier. Alors, dis-moi si je me trompe, mais quand je faisais mes petites recherches, c'est vrai qu'en termes de rivalité, les clubs que j'ai beaucoup vus, enfin, en tout cas, les principaux qui sont ressortis, c'était Bordeaux et Angers. Est-ce que c'est un peu les rivaux historiques du FC Nantes?
Alors, historique, pour moi, c'est plus Bordeaux et Saint-Étienne.
Ok.
Saint-Étienne pour la période 60-70, Bordeaux un peu plus après. Et Angers, je suis pas forcément d'accord. Pour moi, la nouvelle rivalité, entre guillemets, c'est plus avec Rennes, notamment sur les supporters les plus jeunes aujourd'hui. C'est avec Rennes qu'il y a une rivalité depuis la remontée en Ligue 1. La rivalité s'est créée notamment sur des matchs qui étaient assez dingues, des scénarios assez fous. Je pense notamment au 3-0, au 3-1 qu'on gagne chez eux l'année de la remontée, le match retour qui gagne 3-0, le match en 2021 ou 2022, je crois, qui gagne 3-2 alors qu'on menait encore 2-1 à la 92e minute. Enfin voilà, c'est la grosse rivalité aujourd'hui, à mon avis, elle est avec Rennes, parce qu'ils jouent dans le même championnat que nous, mais la rivalité historique, elle est plus avec Bordeaux et Saint-Etienne. Et Angers, pour moi, c'est plus nous qui sommes leurs rivaux que l'inverse.
Ok. J'allais y venir justement à Rennes. Petite question, le Tifo en 2013, c'était vous ou pas alors?
Alors moi, j'étais au stade. Forcément, quand t'entends des supporters à dire le RCK a perdu son Tifo, je que ça vient de Nantes. Ouais. Mais ouais. C'était un sacré match. J'avais fait le déplacement. Moi, on était, je crois qu'on était 2000 ou 3000. C'était énorme. On venait de remonter. C'était 2-3 mois après notre remontée, même pas, je crois. Donc c'était dingue comme scénario, ouais. Comme match.
Ouais, avec le fameux but de Paul-Georges Lentep. Qui vient après devant la Brigade Loire, ça, ça devait être pas
le
mal.
Le but
ça.
De Lucado qui se fait une passe décisive à lui-même aussi, je ne sais pas si ça te parle. Ça.
Ouais, ça me parle. J'ai re-regardé du coup certains matchs, dont celui-là, pour bien comprendre cette rivalité, enfin, extrait du match pour bien comprendre la
rivalité. Et derrière, il y avait eu Ousmane Dembélé qui nous en plante 4 ou 3, enfin, qui me fait un match de fou et qui, c'est d'ailleurs ce match-là qu'il révèle au grand public et à la Ligue 1. C'était la saison d'après ou deux saisons plus tard, où on se prend 4-1. Depuis la remontée, à part le 3-1 et le match qu'on gagne à domicile après notre victoire en Coupe de France, on a plus été perdant que gagnant face à Rennes.
Ok. Petit point avant de commencer à rentrer un peu dans la saison, dans les saisons du FC Nantes et son histoire à partir des années 2000. Le jeu à la nantaise, il existe encore aujourd'hui? Toi, t'en as quel souvenir? Parce que moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est un peu mort avec le temps. Hein. Je me souviens encore de Reynald Denouex qui était élu à jeu à la nantaise. Alors, je suis pas beaucoup plus vieux que toi. Je l'ai très peu connu aussi. Mais j'ai l'impression que c'est un peu, voilà, c'est devenu un jeu du passé, non, aujourd'hui?
Ouais, je suis complètement d'accord. Malheureusement, le jeu à la nantaise, il n'existe plus aujourd'hui. Ça, c'est apparu dans les années 90. Mais en fait, on a l'impression qu'il existe encore tellement on nous en parle. Enfin, moi, en tout cas, j'ai l'impression de l'avoir vécu tellement on en a parlé, même si je ne l'ai pas vécu. Ouais. Donc, c'est quand même assez dingue. Via mon père, mon grand-père, ou même tous les plus de 50 ans, 40-50 ans, avec qui je parle du FC Nantes, ou que j'ai parlé du FC Nantes quand j'étais au club, ils m'en ont tous parlé, et même des gens qui ne sont pas supporters, c'est ça qui est assez fou. C'est que tu peux parler avec un mec qui vient de Metz, par exemple, mon beau-père vient de Metz, tu lui parles du FC Nantes, il va te parler du jeu à la nantaise. Donc c'est quand même assez dingue de voir comment ça a marqué l'histoire du championnat de France. Ce jeu-là, ce terme-là. Et d'ailleurs, si on prend un peu plus de recul, qui à part le Barça, enfin quel club à part le Barça, avec le tiki-taka, a un terme associé à son jeu footballistique, tu vois? Je trouve ça assez dingue et je trouve ça hyper dommage de ne pas l'avoir vécu ou que ce soit, comme tu dis, que ce soit éteint petit à petit, quoi.
Ouais, mais en faisant mes recherches, je regardais justement des clubs qui avaient des jeux à leur nom, tu vois, quelque chose qui était caractéristique d'une équipe en soi. Alors, il y a certains coachs qui apportent leur manière de travailler, mais c'est vrai qu'une équipe, une philosophie, il y a une équipe, un centre de formation, il y en a quand même très peu. En tout cas, j'en ai pas trop trouvé à part le Barça. Très bien. Bon, on va commencer du coup à parler de Nantes à partir des années 2000 jusqu'à aujourd'hui. Alors, c'est vrai que les années 2000, elles commencent très bien pour le FC Nantes quand même, parce que en 2001, Nantes est champion devant Lyon et Lille après avoir gagné la Coupe de France en 99 et 2000. Alors toi, tu m'avais dit que voilà, tu étais très jeune pendant ce titre de champion de France, mais j'imagine qu'autour de toi, ça a dû en parler, ça doit encore en parler aujourd'hui. Quel est le lien que tu as par rapport à ça et les histoires qu'on t'a racontées autour de ça?
C'est marrant parce que tu vois, j'avais 6 ans, non, j'avais, ouais, c'est ça, j'avais 6 ans, et pourtant j'ai l'impression de connaître et d'avoir, un peu comme le jeu à la nantaise, d'avoir vécu ce titre-là, les Armand, carrière d'Arocha, Vaihura, Landreau, Fabry, tu vois, ces mecs-là, je les ai très peu connus, très peu vécus, très peu regardés à la télé. Et pourtant, j'ai l'impression que ça a bercé un peu mon enfance. Donc ça montre que ce titre-là, il a été hyper marquant. C'est d'ailleurs le dernier titre de Ligue 1 du club aujourd'hui. Et ça marque un peu, ouais, comme tu dis, la fin d'une époque. Parce que c'était des mecs de la région avec qui les supporters s'identifiaient énormément. Je pense à Darrocha, à Carrière, à Fabry, sa mentalité. Enfin, voilà, même mon père aujourd'hui, il me parle encore de Nestor Fabry. Donc c'est ouais, c'est une grosse époque que, encore une fois, ça me désole de pas l'avoir vraiment connu, mais ça avait l'air d'être quelque chose. Et d'ailleurs, quand j'étais au club, on avait fêté les 20 ans du titre, et tu sentais qu'il y avait quand même encore un engouement autour de ce titre-là, alors que ça fait 20 ans. C'est énorme.
Ah, ça fait plus de 20 ans, et c'est vrai que moi je me souviens de cette célébration de Marama Vaihura quand il faisait la pagaie, c'est quand même mythique, c'est un truc qui marque, même si je me souviens pas forcément des matchs du FC Nantes toute cette saison, mais cette célébration c'est quelque chose qui m'avait marqué, qui m'avait
Ouais,
beaucoup.
carrément, le maillot, son maillot, tu vois, même la célébration de la pagaie, je sais que je la faisais quand j'étais petit,
C'est
et à
ça.
l'entraînement, pour déconner, quand tu marquais un but, tu vois, ça a marqué. Vaihura, c'est pas celui qui a marqué l'histoire du club, parce qu'il n'est pas resté longtemps, mais cette pagaie, le joueur en tant que tel, l'équipe dans son ensemble, ont marqué une génération, ouais.
Et du coup, après ça, voilà, le FC Nantes enchaîne sur une Ligue des Champions qui passe le premier tour de poule, pas le second, hein, il tombe sur beaucoup plus fort. Et mine de rien, jusqu'en 2005, c'est un parcours mitigé, mais pas trop catastrophique. Il y a notamment cette finale de Coupe de la Ligue, pareil, que j'ai revue aussi avec cette Panenka de Landreau. Je ne sais pas si tu t'en souviens,
Ouais, bien sûr, ouais.
pour les
Beaucoup
tirs au
chaud.
but. C'était un match très très chaud, hein, parce que mine de rien, Richter fait un très gros match, il fait beaucoup d'arrêts, mais ouais, cette Panenka de Landreau, pareil, c'est quelque chose que tu t'en souviens encore aujourd'hui?
Ouais, ça pour le coup, je m'en souviens parce que j'avais 10 ans. Et même pour l'avoir revu, vu et revu, mais je me souviens l'avoir vécu. Mais n'est pas Zinedine Zidane qui veut dans le délire des Panenka. Mais d'ailleurs, autour de cette. Je crois qu'il y a une anecdote sur ça, sur cette Panenka de Landreau contre Sochaux. Il me semble, à vérifier, hein, mais il me semble que il y avait un supporter ou un mec de Sochaux qui avait vu Landreau s'entraîner à faire des Panenka avant la finale. Et du coup, alors je ne sais plus du tout où j'avais vu ça, hein, ça se trouve, ce n'est pas du tout vrai. Mais il avait vu Landreau s'entraîner à faire des panenka avant la finale, et du coup il avait dit ça au gardien de Sochaux ou staff, un truc comme ça, tu vois. À vérifier, je suis pas sûr de mes sources.
Après, ouais, ça serait pas faux, puisque quand j'ai regardé la séance des tirs au but, là, je me suis rematé, c'est vrai que Richter, il plonge pas tant que ça. Sur
Ouais,
tous
c'est
les
ça,
pénaux, il
exactement.
se lance quand même. Là, il part, mais sans vraiment partir, tu vois. Comme si, voilà, il
Comme
attendait
s'il
ce qu'il
savait en
passe
fait,
quelque
ouais.
chose, c'est ça. Donc, ouais, donc finale perdue, dommage. Et puis après, c'est vrai que bah, ça devient beaucoup plus compliqué pour le FC Nantes. La descente en 2007, une saison très difficile, même catastrophique. Et puis la vente du FC Nantes, donc Dassault qui vend le club à Valdemarquita, qui avait déjà essayé de racheter le club à la fin des années 90, qui s'était essayé avec le FC Lausanne, il avait essayé aussi de racheter le Nice, le club de Nice. Bon, voilà, finalement il arrive à racheter le FC Nantes. À ce moment-là, quand Valdemarquita rachète le FC Nantes, qu'est-ce que se disent les supporters? Alors, je sais que peut-être tu étais en début d'adolescence, peut-être que tu t'intéressais pas forcément à ça, mais aujourd'hui, avec le recul que tu as, qu'est-ce que se disaient les supporters? Quel type d'attente ils avaient par rapport à Valdemarquita?
Alors déjà, au moment du rachat, la situation du club était quand même assez compliquée, même financièrement, il me semble. Donc ça pouvait être vécu comme une sorte de renouveau, mais je crois que dans le même temps, Valdemarquita avait eu des grosses difficultés avec l'ancien club dont il était propriétaire, Lausanne, il me semble.
C'est ça, oui.
Et du coup, il y avait forcément un a priori. sur la personne et sur ce rachat-là. Mais vu la situation du club, on ne demandait qu'à voir, entre guillemets, tu vois. Mais entre les difficultés financières, les difficultés administratives, enfin voilà, il y avait un environnement au club qui était quand même très compliqué. Du coup, tu vas raconter la suite, mais ça ne présageait rien de bon, entre guillemets, quoi.
Ok. Ouais, bah en effet, alors quand ils rachètent le club, le FC Nantes remonte tout de suite en Ligue 1. Ensuite, ils redescendent de nouveau en Ligue 2 la saison suivante. Là, 4 ans de galère en Ligue 2. Et même échappé de près à une descente en National. Finalement, retour de Der Zakarian après un passage mitigé en 2006-2007. Donc, retour de Der Zakarian en 2012 qui remet Rennes. Sur les rails. Pardon, désolé, sacrilège. Donc, qui remet. Oh là là, oh, qu'est-ce qui m'arrive? Qui remet Nantes sur les rails. Et surtout que c'est une fin de saison palpitante. Parce que Nantes, ils étaient à 3 victoires sur les 6 derniers matchs. Donc, ça allait, mais c'était plutôt mitigé. Ça jouait entre Nantes, Guingamp et Angers, hein, on reparle, c'est peut-être pour ça que finalement vous êtes les rivaux d'Angers, pour leur avoir privé de cette montée, et finalement Nantes s'impose sur la 37e journée face à un Sedan qui est déjà relégable, surtout que ça commence pas si bien que ça, parce que Lucado prend un carton rouge en début de match. Toi, ce match, quand tu vois ce carton rouge de Lucado, est-ce que tu dis, voilà, c'est bon, on est maudit, ça va encore nous retomber dessus, on va pas réussir à remonter?
Ouais, complètement. Alors déjà, le avant ce match-là, il y a un déplacement à Caen où on gagne 2-1, il me semble, et qui nous met vraiment sur des bons rails sur la montée. C'était le match vraiment à pas perdre. Et on gagne 2-1 avec un but de Georgievich, il me semble. Donc ça nous met bien sur la 37e journée, comme tu dis, contre Sedan. Et là, stade plein, engouement énorme. Je me souviens, j'étais au stade, il fallait arriver... je ne sais pas combien de temps avant, en tribune noire, parce que tout le monde était là avant. Donc, vraiment un énorme engouement. Tu sens qu'il y a une génération de jeunes qui a envie de découvrir la Ligue 1, qui ne l'a pas spécialement connue ou qui était trop jeune pour la connaître. Et comme tu dis, petite douche froide sur le carton rouge de Lucado à la 7e minute, il me semble.
C'est ça, c'est un tout début de match.
Et en fait, tu te dis, je crois qu'il y a le but, c'est le frère de. C'est Florentin Pogba.
C'est Florentin Pogba qui met un contre son camp. Ouais.
Et assez tôt en plus dans le match, non?
C'était en deuxième mi-temps déjà.
Ah, ok, ok. Mais du coup, tu sens le. En fait, tu sens que, vu l'ambiance, vu la mentalité des joueurs, la saison qu'ils avaient passée, c'était quand même un groupe assez soudé. Tu sentais qu'ils pouvaient le faire même à 10 contre 11. Et même à 1-0 en infériorité numérique, tu dis, ben non, ils vont tenir jusqu'à la fin. Et comme tu dis, c'était très, très chaud. Mais ça scelle définitivement notre montée en Ligue 1. Et ce groupe-là ne méritait que ça. Parce que cette saison-là et même la saison suivante, tous les supporters s'étaient attachés à ces mecs-là, à Lucado, qui représentait vraiment le club. Qui avait l'amour du maillot, qui mouillait le maillot, Viscarondo, tous ces joueurs-là, Issa Sissoko, etc.
Et du coup, voilà, remonter en Ligue 1 après 4 ans, on va dire, dans l'antichambre, hein, ce petit purgatoire qu'est la Ligue 2, hein, c'est très dur, hein, de sortir de la Ligue 2. Donc finalement, vous remontez en Ligue 1 et vous faites des saisons au final qui ne sont pas si mauvaises que ça. Alors c'est une petite particularité, j'ai l'impression, du FC Nantes de très bien commencer les saisons et de très mal les finir. Par exemple, la dernière saison de Der Zakarian, ça commence très fort avec voilà, 6e place. Après, il y a un milieu de saison qui est un peu moins bien et puis à la fin, ça s'écroule complètement enfin pour finir 14e. C'est vraiment la particularité de ce FC Nantes de bien commencer, de mal finir, puisque quand je regardais les dernières saisons, c'est souvent ça qui arrive à ce club. Qu'est-ce qui se passe en fait?
Ouais, complètement. J'avoue que j'ai pas forcément la solution ou l'explication à ça, mais complètement. Même moi, quand j'étais au club, ça m'est arrivé un nombre de fois de vivre des 6 premiers mois géniaux. Et en fait, très vite. Et du coup, l'engouement qui se crée sur la Coupe d'Europe, je pense à la saison avec Claudio Ranieri ou à la trêve en décembre, on est troisième de Ligue 1 avec 7 points d'avance sur Nice, un truc comme ça. Et du coup, tu te dis, mais en fait, rien ne peut nous arrêter. Ranieri, il fait un travail monstre. Et en fait, on s'écroule, on finit 9e ou 11e, il me semble. Et à l'inverse, je pense à... Ou même pour continuer dans cette veine-là, Christian Gourcuff, pareil. La première saison où, en 2019-2020, on fait 6 premiers mois énormes, on est 5e à la trêve et on s'écroule ensuite. Mais à l'inverse, moi, quand je suis arrivé au club, il y avait il s'appelle René Girard. On était 19e de Ligue 1 à la trêve, ou juste avant la trêve, et est venu le GOAT Sergio Conceição, qui nous a fait finir 7e. Donc, tu vois, ça marche dans un sens, mais ça, Sergio Conceição est un peu le contre-exemple de
la saison
2016-2017, ouais, où on finit 7e. Donc c'est un peu l'histoire de ce club depuis des années. Hein. C'est les montagnes russes, en fait. C'est dingue.
Ouais, c'est ça, cette saison. Même à un moment, ouais, vous avez été 19e et vous finissez 7e avec une fin. Enfin, quand on regarde les dernières journées, c'était assez ouf le parcours du FC Nantes. Alors forcément, on va toucher à un sujet un peu plus difficile. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Je vais pas faire l'innocent, hein, je suis quand même un peu la Ligue 1, même si je suis pas le FC Nantes en interne. Mais on sent qu'il y a une rupture entre Waldemar Keita et les supporters qui est arrivée assez très tôt. Même déjà quand le club était en Ligue 2, on sentait qu'il y avait cette rupture entre le président et même la direction de manière générale et les supporters. Qu'est-ce qui s'est passé pour en arriver là aujourd'hui? Et est-ce que c'est quelque chose qui peut s'arranger dans le temps?
Je pense malheureusement que le mal est fait. Qu'on est allé, comme tu dis, que la cassure elle est beaucoup trop importante pour qu'on puisse revenir en arrière. Il y a eu des moments où tu sentais que ça pouvait, la relation pouvait être plus saine. Aujourd'hui, je pense que c'est trop compliqué et ouais, non, c'est trop chaud aujourd'hui pour que ça puisse revenir en arrière. Le mal est un peu fait. Et en fait, ce qui est reproché aujourd'hui par les supporters à la direction, c'est le manque de stabilité depuis 15 ans, sur notamment les entraîneurs. On le voit encore cette année, il y a quand même un turnover d'entraîneurs ou qui ne sont pas gardés, qui ne peuvent pas avoir assez de temps. Et je pense que ça, c'est vraiment le gros problème, ouais, c'est ce qui est pointé, c'est le manque de stabilité, notamment au niveau des entraîneurs et du jeu. Et je pense aussi, si on prend un peu plus de recul, que le fait, tu vois, tu as abordé le jeu à la nantaise, les belles années du FC Nantes, 94, 95, 2000, 2001, 2001, 2002, etc. Que le contraste, en fait, entre le passé du FC Nantes et la situation dans laquelle est le club aujourd'hui, à savoir ventre mou, voire fin de tableau de Ligue 1, elle est trop dure à encaisser pour beaucoup de supporters qui aimeraient revenir avec le FC Nantes d'antan, à savoir qui joue les premières places, qui joue le titre, etc. Tu vois.
Ouais, je comprends. Ouais, c'est vrai que, bah, voilà, comme je t'ai dit, moi je ne suis pas supporter du FC Nantes, même si on le suit de loin. Et quand je préparais un peu notre entretien, je regardais un peu ce qui s'était passé. Et on se dit, bon, moi je supporte, les auditeurs le savent déjà, je supporte le PSG, on en a eu des problèmes avec notre direction aussi, mais au final, au bout d'un moment, ça s'arrange. Et c'est vrai que là, on sent que c'est quand même quelque chose qui était assez présent, on voit les banderoles aux différents matchs, et tu parlais des entraîneurs aujourd'hui, de l'ère de cette direction, on compte à peu près entre 20 et 21 coachs en fonction de la manière... on les compte, hein, si on compte ceux qui ont déjà fait un ou deux passages. Est-ce qu'il y a quand même un coach qui a marqué le FC Nantes? Un coach où vous vous dites, putain, lui, on aurait bien voulu qu'il reste quand même parce que il était bon, quoi.
Bah, je pense qu'on est tous unanimes sur un, Sergio Conceição, ouais, qui a fait 6 mois au club et qui a marqué de son empreinte le club. Et Dieu sait qu'en 6 mois, c'est très, très compliqué de le faire. Mais il a repris un groupe... 19e de Ligue 1, qui était mentalement très, 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 très bas. pour en faire des joueurs excellents. Je pense notamment à Léo Dubois qui était en difficulté sportive et qui finalement sous l'ère contre CSAO, donc sous 6 mois, s'est complètement révélé. Je crois qu'il est allé en équipe de France ensuite, il a poursuivi à Lyon, etc. À Valentin Rongier, Guillaume Gillet au milieu de terrain, Emiliano Sala et Préjus Nakulma en pointe. Enfin voilà, sur 6 mois, c'est Sergio Conceição où tous les supporters, et même aujourd'hui, je pense, même si le fait qu'il aille à Porto dans la foulée, ça a un peu taché son image, mais je pense qu'on est complètement tous d'accord pour dire que c'est Sergio Conceição qu'on aimerait bien voir revenir, tu vois. Et après, plus personnellement, et même je pense qu'il y a pas mal de supporters qui seront d'accord avec ça, Antoine Comboiré, mine de rien, le passage qu'il a fait à Nantes avec la Coupe de France, avec le maintien inespéré en 2020-2021, le parcours en Coupe d'Europe dans la foulée, en qui plus est, du fait qu'il soit ancien de la Maison Jaune, ça lui a forcément donné une énorme cote de popularité. Et moi, c'est immense respect envers ce coach-là. Moi, je me rappelle, c'était mon dernier match, parce que j'avais annoncé que je partais en 2021. Le dernier match, c'était le match de barrage contre Toulouse. Et c'est lui qui nous maintient. Et moi, je pars du club, non pas sur une descente, mais sur un maintien. C'est quand même, la donne est quand même complètement différente. Et pour tout ça, même pour l'après, quand j'étais supporter et que je vivais les matchs de l'extérieur avec Antoine Comboiré, la Coupe d'Europe, Nantes-Juve, enfin Juve-Nantes, quand on fait 1-1, le fait qu'on se qualifie en barrage après la phase de poule, tout ça, c'est en grande partie grâce à lui, aux joueurs aussi, mais en grande partie grâce à lui. Donc ouais, non, si je devais citer deux entraîneurs, ce serait Conceição, dans cette période-là, Conceição et Antoine Comboiré, ouais.
Bah c'est parfait que tu parles d'Antoine Comboiré, ça me permet d'enchaîner sur l'autre sujet, parler un peu de, on va dire, des choses un peu plus heureuses quand même qui sont arrivées au FC Nantes. Hein. Donc il y a cette saison, comme tu le disais, donc 2020-2021, donc qui est très compliquée, avec notamment le départ de Christian Gourcuff au bout de 3 mois. Il y a Raymond Domenech qui va officier pendant à peine 2 mois. Et il y a Antoine Comboiré qui arrive en février. Et qui sauve ce club justement face au FC Toulouse de la relégation. Hein. Donc c'est un match qui était quand même assez fou. Et ce qui est aussi assez fou, c'est que l'année suivante, le FC Nantes fait un parcours extraordinaire en Coupe de France. Alors juste pour rappeler un peu comment ça s'est passé pour le FC Nantes à ce moment-là. Donc c'est une finale. On te disait quoi? Je vais te passer un extrait. Tu vas me dire ce que t'en penses. Et on va en parler après.
Et là, c'est le cas avec Thuram. Oui, la frappe! Oh, c'est repoussé, ça revient! Oh, le double arrêt exceptionnel!
Mais quel miracle! Mais quel miracle!
Quelle parade d'Albon Lafont face à Andy Delors!
Il va faire ce petit ballon pour Amine Gouiri dans une super position. Et après, derrière Delors. Il a le geste juste, mais là, regardez, la frappe, elle est trop axiale, elle est trop en plus sur le gardien nantais. Et derrière Delors, lui, il a le geste juste, un ballon à terre, mais
c'est
Giroto qui va sauver sur sa ligne. Les Nantais sont miraculés sur cette action.
Dernière possession niçoise. C'est fini! La Coupe de France, elle est pour les Nantais, pour les hommes d'Antoine Comboiré. Joie immense ici au Stade de France pour le technicien Kanak qui avait déjà remporté la Coupe de France 2 fois en tant que joueur, 1 fois en tant qu'entraîneur. Il a remporté ce soir avec son club de cœur, le Football Club de Nantes.
Magnifique.
Magnifique. But de Blas sur pénalty. Sauvetage inespéré sur une frappe de Delors. Je ne sais plus c'est quel défenseur qui l'arrête sur sa ligne. Giroto, je te laisse parler, je pense que là il n'y a pas besoin de questions, exprime-toi quoi.
Ouais, non, c'est magnifique. Après, moi pour l'anecdote, je n'ai pas vu cette finale, je n'étais pas au stade parce que mon frère s'est marié. Mon frère qui est un grand fan du FC Nantes aussi. On mariait ce même jour. Donc c'était une super soirée pour nous aussi. Et on s'était dit, mais le hasard de dingue. Et en fait, l'année d'après, on y retourne au Stade de France. Donc en fait, on a pu vivre et le mariage et une nouvelle finale qui n'a pas fini sur la même note. Mais non, Nantes-Nice, on ne l'a pas regardé, mais on a regardé, je crois, les 5 dernières minutes. On était le lendemain sur la place Foch pour célébrer avec les joueurs. C'était complètement dingue. Comme le commentateur a dit, miraculé. C'est ça, c'est fou. Le parcours en plus en Coupe de France cette année-là est quand même assez incroyable. Je me rappelle de Monaco en demi-finale où on gagne au pénalty, envahissement de la pelouse. C'est fou. Et comme tu disais tout à l'heure, un an après un maintien au dernier match de barrage dans un scénario où 9 fois sur 10 on perd ce match. Donc c'est fou, ouais, en un an. Les montagnes russes, comme je te disais tout à l'heure.
Ouais, gros montagne russe. Et puis, c'est ça, l'année suivante, vous retournez en finale de Coupe de France. Mais cette fois-ci, malheureusement, c'est Toulouse qui l'emporte 4-1. Hein, donc là, il n'y a pas vraiment photo. Mais c'est vrai que cette saison suivante, donc vous gagnez la Coupe de France 2021-2022, 2022-2023, saison compliquée. De nouveau, alors qu'on aurait pu penser que les choses allaient peut-être mieux tourner, il y aurait plus de stabilité, puis il y aurait un meilleur engouement. Finalement, la saison est assez compliquée. En tant que Comboiré est remercié et remplacé par Pierre Aristouille en toute fin de saison. Et vous vous sauvez, encore une fois, c'était sur le fil. Parce que ça se joue au dernier match, dans le sens où vous n'aviez même pas votre destin entre les mains. Encore une fois, on retrouve Angers, comme quoi vous leur portez vraiment la poisse. Bon, ils étaient déjà relégués à ce moment-là, condamnés à descendre. Vous battez Angers, mais de l'autre côté, Auxerre perd face à Lens 3-1. Toi, tu les vis comment cette fin de saison? Faut pas être cardiaque, quoi.
Non, c'est clair, faut pas être cardiaque parce que, sportivement, c'était compliqué parce que tu perds ton meilleur joueur Randal Kolo Muani sur cette saison-là, juste après le titre de Coupe de France. Tu joues la Coupe d'Europe, tu fais un gros parcours en Coupe de France encore, donc en fait, tu enchaînes les matchs. Je crois qu'ils ont fait plus de 50 matchs dans la saison avec un effectif qui s'est pas tant renforcé que ça, qui n'était pas hyper développé, donc. On n'était pas voué et destiné à avoir cette saison-là. Mais comme tu dis, il ne faut pas être cardiaque. Le dernier match de la saison, tu peux te dire que Lens, il me semble que Lens était déjà assuré.
Ils étaient déjà deuxième, ouais.
C'est ça, ouais. Et tu te dis, en fait, les mecs, ils vont jouer les mains dans les poches. Ils s'en foutent de ce match-là. Et non. Et grand merci à Lens, d'ailleurs, d'avoir joué le jeu jusqu'au bout. Parce qu'ils auraient pu complètement lâcher sur la dernière journée. Et on serait en Ligue 2 aujourd'hui, tu vois. Donc, match, encore une fois, on a de la chance aussi de jouer Angers qui n'avait plus rien à jouer sur la dernière journée. Et encore, le match est quand même assez chaud. Mais c'est ça aussi, c'est que tu vis des émotions qui sont quand même hyper fortes. La finale de retourner en finale de Coupe de France cette même saison-là, c'était inespéré. Tu as moyen de la gagner deux fois d'affilée. Pour un club comme le FC Nantes aujourd'hui, c'est quand même juste dingue. Encore plus quand tu sais qu'il y a le PSG, il y a l'OM. Il y a Monaco, il y a Nice, etc. Il y a Lyon que tu bats en demi-finale sur un but sublime de Ludovic Blas. Donc c'est des émotions qui fluctuent en ce moment, qui sont quand même plus négatives que positives. Mais on a quand même vécu des trucs de fou, comme tu dis, entre ces deux finales-là, entre les deux maintiens in extremis, entre les matchs de Coupe d'Europe, le déplacement à Turin, etc. Tu vois.
En plus, Lens aurait pu être taquin parce que vous les éliminez en quart de finale de Coupe de France. Ils auraient pu se dire, attends, ils nous éliminent en plus sur deux pénaltys. Bon, on va se venger, on va les laisser descendre en Ligue 2. Ils
ont ouais, ouais, mais c'était pas la mentalité des joueurs de Lens de cette année-là, j'ai l'impression.
Tant mieux pour vous, mais c'est vrai que c'est pas du tout la mentalité de cette équipe qui est toujours assez joueuse. Dernière question pour finir ce petit entretien. Alors, c'est une question que je pose à mes invités, c'est assez philosophique, bon, tu la prends comme tu veux. On en parlait un peu en début de l'entretien, comment les supporters se comportaient aujourd'hui dans le foot de manière générale. Et puis c'est vrai que côté Nantais, vous avez eu beaucoup de malheur ces derniers temps, notamment avec la disparition de, je crois que c'est le président d'un des groupes de supporters, si je ne me trompe pas, récemment. Donc moi, je voulais savoir, c'est quoi ta vision du supporter aujourd'hui ?
Eh ben, c'est un peu comme Thierry Tissot, ce supporter-là, qui je dédie ce podcast, qui est décédé effectivement le week-end dernier. C'est un mec qui, un supporter, c'est quelqu'un qui ne va pas, qui va toujours supporter le club dans les bons comme dans les mauvais moments, qui va se dévouer pour le club, qui va supporter même quand l'équipe ne va pas bien, même quand les résultats ne sont pas bons, même quand on est en Ligue 2, on a traversé des périodes quand même assez fastes, et c'est aussi là qu'on voyait pour moi les vrais supporters, c'était ceux qui étaient là aussi en Ligue 2 à supporter, à venir contre Clermont, etc. Enfin, même Châteauroux, enfin, Pau. Donc ouais, c'est ça, c'est un mec qui vit sa passion aussi, qui ne résume pas forcément sa vie qu'au club, mais pour qui ça prend une place quand même assez importante dans sa vie. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à ta question, mais c'est quelqu'un qui se dévoue pour le club et qui en fait sa passion dans les bons et les mauvais moments.
Moi, ça me va, c'est parfait, c'est ta réponse. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Moi, je voulais juste entendre ta vision et voilà, la manière dont tu vois le supporter aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter au FC Nantes pour cette saison 2023-2024?
Bah, le maintien, ce serait déjà très bien.
Ok, nickel. Bon, bah, Lucas, je te remercie de m'avoir, d'avoir répondu à mes questions, d'être revenu avec moi sur ce FC Nantes des années 2000. Merci aux auditeurs de nous écouter. N'hésitez pas encore une fois à commenter nos différentes émissions, à revenir vers nous, à nous liker sur X, sur X, Fred, Instagram, à nous écouter sur toutes les plateformes d'écoute telles que Spotify, Deezer ou encore Apple Music. Et pour vous quitter, on va vous laisser avec l'hymne du FC Nantes. Et c'est l'hymne du FC Nantes qui a été chanté au Stade de France lors de la finale gagnée par les Canaries. Allez, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, et on se retrouve la semaine prochaine pour retrouver le meilleur championnat d'Europe, du monde et de la galaxie.